Airbag Takata. De nombreux véhicules de différentes marques, et peut-être le vôtre, circulent aujourd'hui équipés d'airbag Takata défectueux. En cas d'accident, ils peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le danger est réel. Vérifiez immédiatement si votre véhicule est concerné sur airbagtakata.fr. Le remplacement est gratuit. Votre sécurité n'attend pas.
Aucun secret pour vous? Eh bien non, les amis. Jurisprudence Star Wars, le volume 2 de ce nouvel album de Pascal Obispo vient de sortir avant le volume 1 qui arrivera à la rentrée. Mais vous en faites pas, il va tout vous expliquer. Il est pas loin, il est assis à côté de moi. Bonsoir Pascal.
Bonsoir, ça va bien?
Comment ça va?
Oui, ben ça va. L'album est sorti, c'est...
Oui.
C'est toujours, une joie, parce qu'avec depuis 2 ans et demi, c'est vrai que...
C'est un boulot,
hein. C'est beaucoup de travail. Je pense que les gens qui écoutent de la musique et qui adorent écouter des chansons, je suis pas sûr qu'ils se rendent compte à quel point on passe énormément de temps à s'écouter. C'est d'ailleurs pour ça que je ne m'écoute plus une fois que c'est
ouais.
sorti. J'adore écouter les autres, d'où cet album Héritage, en
bah
fait.
Oui. Ouais. Parce que c'est vraiment des chansons qui sont écrites sur mesure. En fait, c'est la haute couture. Ce que vous avez fait, Pascal,
c'est gentil,
mais c'est vrai, c'est de la haute couture, puisqu'en fait, chaque chanteur, chanteuse, et à la fois, bonjour, je parlais de Star Wars, mais c'est aussi un peu les Avengers de la chanson française qui sont là, et donc, non seulement les textes, ce sont des textes qui leur parlent, et qui ont été associés donc à des mélodies que vous avez composées, des musiques que vous avez composées, en pensant à eux, à leur voix, à ce qui leur correspondrait, enfin c'est, oui, c'est de la haute couture, et c'est aussi beaucoup d'amour.
D'abord, c'est le boulot d'un compositeur de pouvoir s'adapter à l'interprète.
Quoique, Gainsbourg, il faisait l'inverse. Hein. Il faisait exprès de taper des notes très hautes pour faire souffrir Jane Birkin.
Ouais, mais sauf que là, le problème, c'est que je me suis positionné en tant qu'un compositeur, sauf qu'eux, ils n'avaient pas besoin de moi.
Ah.
C'est le principe. Parce qu'ils sont aussi auteurs-compositeurs.
Oui.
En fait, c'est ça le concept, c'est rendre hommage à une stylistique un peu des années 70. Mon album est complètement organique. Un album, comme je dis pour rigoler, INA, une intelligence non artificielle.
C'est bien.
Et le reste, c'est vrai que, voilà, remercier des icônes de ces années-là et puis des héritiers aussi comme Bruno Benabar, comme Icar. Alors pour vous répondre à votre question, parce que voilà, vous savez pas, peut-être pas pourquoi c'est le volume 2, c'est parce que quand vous enregistrez 26 duos, on répartit un peu en fonction.
On fait 2 disques. Ouais.
On fait 2 disques, on essaye d'équilibrer entre les plus anciens, les plus jeunes, un peu de génération, etc. Équilibre de générationnel. Et puis surtout que, il faut quand même avoir un peu d'élégance parce qu'ils sont tous venus quasiment au même moment dans la période de 2 ans et demi.
Ouais.
Donc en fait, l'élégance était que le volume qui sortait en octobre s'appellerait le volume 1.
Oui,
tout simplement.
J'aime bien. Oui, mais c'est bien comme ça, ça fait pas. Ah, bah tiens, il reste un fond du tiroir, on vous le met.
Exactement.
Là, c'est le volume 1.
Surtout que dans le volume 1, il y a.
On le dit ou pas?
À chaque fois qu'on vient.
Oui, c'est vrai, on balance des noms.
On dit. Il y a Véronique,
Sanson, William Scheller,
ouais.
Eddie Mitchell, Serge Lama, donc voilà, vivement la rentrée.
Calogero, Robin Cers, il y a pas mal d'artistes.
Santa, Adjani.
Ouais.
Ah non, ça va être beau. Mais là,
je suis en train de le finir.
Voilà.
Concentrons-nous sur celui-là,
mais de toute façon,
c'est beaucoup de travail.
Donc effectivement, composer pour des auteurs-compositeurs qui, en plus d'habitude, ne chantent que sur leur propre musique.
Ils s'en foutent complètement de vous. Voilà.
C'est ça. Prenons l'exemple de Cabrel. Cabrel, ouais. Il écrit ses paroles, il écrit ses musiques, il est tranquille, il ne demande rien à personne. Il est venu chanter. Il faudrait que pleuve l'amour.
Il faudrait que pleuve l'amour.
Cabrel, si c'est de la drague, je sais pas.
Bah déjà, on se connaît depuis les Restos du Cœur, parce qu'il est, on s'est croisés beaucoup. Je l'avais invité déjà pour l'album pour le sida. Et puis là, grâce à l'application, parce que tout a été déclenché par mon application Obispo All Access, que vous pouvez avoir sur Apple Store ou sur Google Play, si c'est, avec
et sur laquelle il y a
des choses. Je fais une anthologie de la chanson française, et à chaque fois que je fais une petite anthologie, c'est-à-dire je fais un album sur un artiste,
je lui envoie. Ouais.
Donc j'ai envoyé à Francis. Est-ce que ça l'a influencé? Je sais pas.
Bah en tout cas, ça lui a pas déplu.
Le truc, c'est que la qualité principale d'un compositeur, quand il décrète qu'il veut écrire pour quelqu'un, c'est qu'il faut au moins aimer d'abord l'artiste, connaître son répertoire. Donc déjà, c'est le truc, c'est la base, quoi. C'est aimer l'artiste. Donc à partir du moment où un artiste sait que vous le respectez, vous aimez son répertoire, vous le connaissez bien, vous chantez, vous produisez pour rien. C'est-à-dire que moi, je le fais juste pour le plaisir avec mes sous. Ça, peut-être que ça fait quelque chose. Après, je pense que je suis aussi heureux que d'être reconnu par ces artistes, ces auteurs-compositeurs. C'est vrai que c'est un projet un peu ambitieux, mais finalement ils sont venus, donc je suis hyper fier et je suis hyper touché, hyper fier, et je leur en dois une.
Il y a Renaud aussi.
Ouais.
Bah oui, là encore. Alors pareil, Renaud qui chante pas des mots qu'il a écrits. Ça, c'est dingue.
Ça n'existe pas, ouais. C'est
que chez Obispo qu'il y a ça. Le dernier des rugissants.
C'est ici, au milieu de l'océan, tout petit, devant l'infiniment grand. Si tu pleures, c'est seul face aux éléments. Si tu cries, ici personne.
Le dernier des rugissants. Ah oh là là, la chair de poule, Pascal.
Bah oui, c'est un enfant.
Quand il vient en studio, justement, ou quand vous allez l'enregistrer, d'ailleurs, je sais pas comment ça s'est passé pour Renaud spécifiquement, mais il y a aussi toute l'admiration. Il y a le Pascal, peut-être gamin, qui écoutait Renaud et tout. Il faut qu'il se taise à ce moment-là, parce que sinon, on est trop fan, on est trop impressionné, non?
Alors, au début, quand ça commence, on est comme ça.
Ouais.
Et après, je deviens un despote.
Vous avez engueulé Renaud?
Non, pas du tout. Bah, je rigole parce que c'est Pierre qui m'appelle comme ça. Qui,
tout le d'un despote. Coup,
non, pas du tout. Mais il me dit, on aurait dit un commandant, ah oui, quoi. On aurait dit un militaire.
Temps.
Et en fait, voilà, le fan laisse place au producteur en studio. Et j'ai de la chance d'avoir un acolyte qui s'appelle Yuri Benaïs, qui fait le son, qui mixe. Et puis aussi d'avoir des super musiciens avec qui j'ai fait l'album. Fred Nardin, Romain Saron, Zizou Sadki, Seb Chouard, Michel Aimé, Christophe Deschamps. J'ai eu une équipe de musiciens de folie. Donc ils sont là, donc voilà, tout va bien. Je suis pas tout seul pour dire non.
Ouais.
Et en fait, l'idée c'est que ouais, pour Renaud, je lui ai demandé de parler. Je trouvais que c'était plutôt pas mal d'entendre sa voix parler sur cette chanson, le dernier des rugissants, qui lui va bien. Plutôt ce que ça dit, c'est vraiment lui.
C'est Lionel Florence et Pierre-Dominique Burgot qui ont écrit des textes.
Ouais.
Les textes sont nés avant les musiques.
Oui, c'est-à-dire que... En fait, au début, je voulais faire un album tout simplement dans la stylistique des années 70.
Un peu comme l'Archipel des séquelles qu'on avait écouté avant.
Alors, Archipel des séquelles, c'est plus un album de femmes, où on mettait en exergue le silence, un peu de jazz.
C'était un peu 70s aussi, moi, je trouvais. Le duo avec Carla Bruni.
Ouais, c'est 70s, mais là, on utilisait beaucoup plus de piano, alors
d'accord,
que là, vraiment,
ouais,
c'est un 70s de 66 à 77 qui est plus basé sur les guitares, okay, sur les 12 cordes, sur l'orgue. Voilà, c'est vraiment des éléments de langage particuliers à cette période-là, avec des solos de guitare qui sont plus près de George Harrison que de Scorpion. ou de David Gilmour, par exemple. Voilà,
ah ouais,
c'est vraiment des éléments de langage de cet album. Donc, je suis parti comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, comme je faisais en même temps les chansons pour des artistes, voilà, je faisais mon anthologie à droite à gauche. Ben, je fais des albums comme ça, enchaînés. Ben, j'ai osé... je me suis dit, oui, c'est ça. La vraie question, c'est si j'osais leur envoyer, et j'ai osé.
Et ben vous avez bien fait.
J'ai osé, et puis je trouve que ça fait un... Et puis c'est bien, la musique, c'est du partage. Dans un monde qui tend à se fragmenter, et se communautariser, je sais pas si ça existe, ce mot.
Ouais, s'archipéliser, puisqu'on parlait de l'archipel.
Voilà.
C'est des petites archipels.
Et en fait, voilà, il y a un peu... Je trouve que l'artiste est là pour faire des ponts justement entre ces, ouais, communautés, et l'artiste est là pour comment dire résister et proposer comme Zazie, elle le dit aussi, mais il faut qu'on s'aime, quoi. Enfin, ouais. C'est juste ça, c'est juste le problème. Il faut qu'on s'aime tous, il faut qu'on s'entende tous. Si on s'entend pas, c'est la merde. Donc, et un artiste est là pour ça. Moi, c'est pour ça que je fais jamais de, entre guillemets, je parle jamais de politique, parce que je trouve que la politique, c'est super clivant. Faut qu'on choisisse un camp. Je m'en fous de choisir un camp. Enfin, nous, on est né avec Touche pas à mon pote. On est là pour faire de la musique ensemble. Et quand tu vas travailler dans une autre communauté musicale, artistique, t'apprends des trucs, puisque c'est pas ton domaine. Donc, nous, on n'est pas contre ça. On est vraiment pour que, pour chanter ensemble, pour faire de la musique ensemble. Et c'est vrai que cet album, c'est un peu ça. C'est hérité de cette, comment dire, de cette appétence pour l'autre, tout simplement.
Alors quand l'autre, c'est Julien Clerc, et que, je vous cite, Pascal Obispo, c'est l'un des plus grands mélodistes français.
Ah oui, sans aucun doute.
Et que donc, tu vous proposez une chanson qui s'appelle Nénuphar. Alors on va
c'est dans la merde.
Vous vous rendez compte quand même qu'il n'était pas vraiment dans la merde, Pascal Obispo, parce que vous avez bien soigné votre histoire.
Nénuphar, nymphéa de trottoir, pas après pas, coup de cafard.
Si chanté après, c'est plus dur.
Nouvelle du soir.
Là, quand je parlais tout à l'heure de haute couture, de sur-mesure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est une chanson de Pascal Obispo, c'est une chanson de Julien Clerc.
Mais c'est le boulot d'un compositeur.
Ouais, mais là, c'est un exemple criant, c'est un exemple frappant. Et personne d'autre, on peut la filer à personne d'autre, celle-là.
Si, on peut la chanter, mais c'est une chanson qui est faite pour Julien. Moi, je l'ai fait pour Julien, donc j'ai tellement de respect pour lui. C'est tellement un gars qui m'a inspiré quand j'ai commencé à faire de la chanson en français, après ma période rock, évidemment, quand j'ai commencé à mettre les mains dans de la chanson française, d'où la pop, ce que vous voulez. C'est vrai que
c'est lui.
T'écoutes Julien Clerc, tu dis, c'est compliqué, quoi, parce que là, il va falloir travailler un peu. Et j'ai mis 35 ans. Honnêtement, c'était un des premiers. S'il refusait, c'est vrai que je pense que j'aurais pas fait l'album, en fait. Enfin, j'aurais pas continué à demander des duos. Et quand Julien a accepté, je me dis, c'est franchement merci, c'est une vraie reconnaissance. Et c'est sans doute touchant pour lui, parce qu'on a envie d'être reconnu par d'autres générations. Et c'est aussi touchant pour moi. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant, cette histoire.
En fait, c'est exactement ça. Ça se sent dans tout l'album, dans tout ce volume 2 Héritage, que je vous recommande. C'est ça, c'est que tout le monde est heureux d'être là, et tout le monde se donne des choses très positives. Vous vous tirez pas la bourre. Alors que parfois, il y a des duos que je ne citerai pas. Non, mais on sait que c'est toi qui as la plus grosse. Là, c'est pas le cas.
Non, mais le truc, c'est que moi, je suis qu'un compositeur qui chante. Donc en fait, je vais pas me mettre au niveau de ces auteurs, compositeurs, interprètes, qui sont aussi des supers interprètes. Ouais. En fait, je me mets pas au niveau. Moi, je me mets vraiment dessous et derrière. J'ai pas de souci avec ça. Moi, je veux que la chanson soit belle. Il y a pas de compète. Il y a juste, allez, on va essayer d'harmoniser nos deux voix et essayer de faire en sorte que ce soit la plus belle chanson qu'on ait écrite. À chaque fois, je fais la même chose pour chacun. J'essaye.
Alors, il y a aussi vos fantômes bienveillants, ceux que vous avez aimés, que vous aimez encore, même s'ils sont plus là sur ce disque. Il y a Philippe Pascal, le chanteur de Marquis de Sade.
Ah oui.
C'est un de vos groupes de jeunesse, quoi.
C'est mon groupe
hyper formateur.
Ouais, c'est ce qui m'a construit.
Philippe Pascal était devenu votre ami.
Ouais.
Il n'est plus là, mais il est là sur l'album. La chanson s'appelle Les Roses.
Je ne sais plus maintenant si j'aime encore les roses. La vie ne m'attend pas, je me promène seul. Parmi l'indifférence des choses, seule est l'indifférence des choses.
Alors c'est pas la première fois qu'on entend vos voix ensemble, vous aviez chanté en vrai dans la vraie vie, mais là, de faire ce duo...
J'avais trois chansons, on avait fait un album avant qu'il refonde Marquis de Sade avec Franck.
Ouais.
Voilà, j'ai dû avoir une petite influence aussi parce qu'en fait ils se sont revenus, ils habitaient dans la même ville 15 ans après à mon concert. J'avais fait chanter Philippe, on avait fait une reprise de Marquis de Sade et j'avais invité Franck. Donc il s'était revu, j'avais un peu déclenché tout ça. J'espère que ça n'a pas signé son départ, parce que j'ai toujours une forme de culpabilité par rapport à ça depuis qu'il n'est plus là. Mais donc on avait fait quelques chansons et puis j'en avais gardé trois où il chantait, il en reste encore une c'est sur, qui est sur mon application, sur un poème de Charles Cros. Là c'est un texte de Lionel Bourg, parce que Philippe cultivait des roses, il adorait son rosier.
Voilà, c'est important pour vous de le mettre sur ce disque. Oh bah,
s'il n'y a pas Philippe, il n'y a personne.
Ouais, c'est ça, en fait c'est la source.
S'il n'y a pas Franck, alors le début quand j'ai commencé la musique, mais avant moi j'étais Marie Gilbert Carpentier. Ouais. Et cet album, il est très comme ça, il est très la musique avant Rennes, mais je pouvais pas faire la même héritage sans mettre aussi ceux qui m'ont donné envie de la faire physiquement. Donc c'était Marquis de Sade, c'était Philippe, c'était Franck Darcel. Et il nous manque sérieusement.
Ouais, mais c'est beau qu'il soit là.
C'est ce qui m'a construit, donc je veux pas. Moi, j'ai pas de posture. De toute façon, j'ai pas de posture, j'ai pas de carte. Donc, comme j'ai pas la carte, je peux pas avoir de posture. Moi, je suis. Toutes les musiques. Philippe, il aimait pas tout ça. Il s'en foutait de tous ces trucs-là.
Les chapelles musicales.
Bah oui, il s'en foutait. C'était la plus grande icône du rock français indépendant des années 80 et 90. Et lui, il voulait que je vienne chanter, jouer du piano avec Marquis de Sade. Je lui dis, mais non, je peux pas. Ce que je raconte toujours, cette anecdote. Je lui dis, mais non, mais je. L'ami te dit oui, mais le fan te dit non. Tu vas pas avoir Pascal Obispo avec Marquis de Sade, Philippe, c'est pas possible.
Les gens vont pas comprendre.
J'ai quand même été chanté, il a insisté pour que je vienne chanter au festival Les Inrecuptibles. Ouais. C'était chaud.
C'était Vanda's Loving Boy.
Exactement. Je me suis dit, t'es sûr ou quoi que... ouais. Et il faut que tu viennes et tout. Tu viens. Voilà, donc ça c'était Philippe, et puis voilà, et puis Michel Delpech. Lui, il était fan de rock. Donc tout va bien.
Ouais.
Tout va bien. Ils sont tous ensemble avec la même envie de faire de la musique, avec la même culture, quoi, quelque part. Avec des nuances, évidemment, mais bon.
Et vous, ça vous procure un peu de réconfort d'avoir ces bandes-là, de travailler sur les bandes de Delpech, j'imagine, oui, vous l'avez beaucoup, beaucoup aimé, parce que là, carrément, pour l'anniversaire de sa mort, il y a carrément
eu... fait un album,
voilà,
oui.
C'est un album. Voilà, il y a Daniel Lévy, aussi, ouais. Daniel Lévy, à qui vous avez fabriqué la comédie musicale de l'an 2000. Les 10 commandements, et Daniel Lévy, il est là, sur Héritage, la chanson s'appelle L'amour qu'il faut. Daniel Lévy, il est mort hyper jeune, il avait encore plein de choses à faire. Vous aviez peut-être des trucs à faire ensemble.
Oui, ben c'est sûr.
Est-ce que c'est réconfortant de les mettre dans un disque, dans votre disque ?
Ce serait vraiment bizarre de ne pas considérer qu'ils puissent être dedans, en fait. C'est évident que Daniel, c'était une partie de ma vie très importante.
Oui. Mais je ne demande pas si c'est bien, je demande si ça vous fait du bien.
Oui, ça me fait du bien, en même temps ça me fait du mal, mais c'est impossible qu'il ne soit pas là, quoi. Voilà, okay. J'ai des bandes, je dois le faire. C'est tout. J'ai les bandes de Philippe, j'ai les bandes de Michel Delpech, j'ai travaillé avec lui, j'ai les bandes de Daniel. C'est normal. En plus, cette chanson était sortie d'une manière différente il y a 10-15 ans. Elle n'avait pas marché. Et c'est impossible que cette chanson ne marche pas. Enfin, je veux dire, c'est une super chanson. Et je l'ai refait avec justement la stylistique de cet album. Elle est un peu soul comme ça. Et avec la voix de Daniel, c'est vraiment magnifique. Alors lui, pour le coup, lui, c'est un chanteur. Moi, je suis vraiment un compositeur qui chante.
Il y a aussi des copains, des gens qui n'ont pas le statut de super-héros dont on parlait tout à l'heure de la chanson française, comme Jonas, comme Claire, comme Renaud, comme Cabrel, mais des gens qui sont plus contemporains, on va dire, de votre carrière à vous, Pascal Obispo.
Gens des années 70, on va dire, voilà.
Voilà.
60-70, c'est plus... on va dire, on est plus dans les 90.
Voilà, 90, voire 2000, comme Icar.
Viens sans raison. Peu importe la saison, au soleil, sous la pluie, à l'abri des intempéries. Viens.
Icar, comment il débarque sur le projet ?
En fait, je le connaissais, je l'avais vu à la télévision, je le trouvais bizarre.
C'est vrai qu'il était bizarre.
Il m'a interpellé quand il faisait ses yeux comme ça. Mais c'est vrai que je l'ai vu sur scène, je trouvais qu'il avait un côté Beko 2.0. J'étais subjugué, je l'avais jamais vu sur scène. Je trouve que la scène, c'est beaucoup mieux, encore mieux que les disques pour le connaître. Pour ceux qui connaissent pas Icar, il faut aller le voir sur scène et vous allez voir qui est cette personne qui, entre les chansons, vous ennuyez jamais. Et sur scène, il est fabuleux. Donc j'aime beaucoup cet homme, aussi bien lui que Benabar.
Oui, comme aussi. On a entendu tout à l'heure, il y a Chico et les Gypsies.
Exactement.
J'ai rêvé que j'étais vivant.
Voilà, voilà.
On tape dans les mains directes.
Ce n'est pas possible autrement. J'ai rêvé toute ma vie durant. Ce n'est pas possible autrement.
Bravo.
Vivant à voir la vie en rose. Vivant à croire.
Des chansons qui donnent de l'élan. Il y a aussi des chansons qu'on connaît, comme l'archipel des séquelles avec Zazie.
Un archipel de séquelles, de manches éternelles, de migraines à la paix.
Oui, je l'ai refait parce que je voulais lui donner une...
Un côté plus guitare.
Une style, ouais, plus 70.
Ouais.
Entre, je sais pas... Simon and Garfunkel.
Ouais.
Et
America.
Ouais. C'est là qu'il y a le solo, non? Ah ouais, faut écouter le début. Ouais, ce côté rock 70, ouais. J'adore.
C'est rock progressif, mais avant que ça devienne chiant. Moi, je trouve que le rock progressif, ça devient chiant dans les années 80, mais dans les années 70, c'est vachement bien.
Ouais.
Et là, c'est beau. Ouais.
Les Floyd et tout ça, ça c'est, ouais. C'est un peu ça. Enfin, on a essayé. Et le truc pour les Gypsies, je voudrais dire un tout petit mot, parce que Zazie, elle a le package complet. D'ailleurs, j'adore son nouveau single, peu importe.
Ici.fr et l'appli Radio France. Mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ?
Parce qu'on parle de vos vies, parce qu'on est utile, parce qu'ici, on sourit.
Alors, même si vous n'êtes pas d'ici, même si vous êtes loin d'ici,
il n'y a pas mieux qu'ici. Vous êtes les bienvenus.
Actu locale, musique et bonne humeur, la nouvelle saison d'ici. Votre radio locale.
Plus de vous.
Plus de nous.
Plus de vie. D'ici.
Ici, les essentiels de Décibel. Émilie Mazoyer et Sofiane Pamard.
Le pianiste français le plus demandé au monde, aussi à l'aise à l'opéra qu'à Bercy.
L'amour, je trouve ça toujours dans les cieux de ma mère. Oh, dans les cieux de ma mère.
De l'ultime album du rocker belge Arnaud au Imagine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, Sofiane Pamard flirte avec le million de disques vendus. Il a dépassé tranquillou le milliard de streams. Il ne cesse de nous éblouir depuis 2019, début de sa carrière solo. Et il sera en avril 2027 le premier pianiste à se produire au Stade de France. Sofiane Pamard vient de sortir son quatrième album, Movie. On est fan et heureux de l'accueillir dans Décibel. Bonsoir Sofiane, bienvenue.
Bonsoir, merci pour cette magnifique introduction, pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme. Ça me touche beaucoup.
Et d'admiration, Sofiane, on s'était vu pour la première fois au moment de Noche, votre troisième album. Le nouveau Movie vient de sortir. Et alors c'est fou, hein, à chaque fois, les titres de vos albums, c'est un mot. Le premier c'était Planète, le deuxième Letter, puis Noche, la nuit. Et là c'est Movie, film. Vous êtes fan de cinéma ?
J'adore le cinéma et je rêvais de composer la musique de mon propre film.
Ouais.
C'est un rêve que je pouvais rendre réalité avec un album musical où il y a une histoire. J'ai d'abord écrit un scénario qui commence par un lever du soleil, qui termine par un coucher du soleil. Dans ce scénario, en fait, c'est l'histoire d'une journée qui est tellement dense émotionnellement qu'on passe par peut-être tous les sentiments qu'on peut traverser à travers une seule vie. Donc c'est très ambitieux, ne vous inquiétez pas, cette journée est inspirante, elle n'est pas lourde, trop autre chose.
Mais il y a des tempêtes émotionnelles quand même. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc c'est la promesse de cet album. Et je viens de le terminer, j'ai mis 2 ans et demi dessus et je suis trop heureux d'en parler et de le promouvoir parce que c'est un projet auquel je crois beaucoup.
On va se balader au cœur de ces nouvelles chansons, chère Sofiane Pamard. Mais avant, il faut qu'on se situe géographiquement. Vous, le nordiste, Vous habitez à Los Angeles, nous l'avez prouvé, c'est sûr. Et alors, ce qui est génial, c'est que le public a compris ça, a répondu présent. Et l'année prochaine, dans moins d'un an, hein, en avril 2027, vous allez jouer au Stade de France. Ce qui, voilà, pour un musicien, pour un pianiste, est une grande première. Samedi 17 avril 2027, ça paraît loin parce que c'est l'année prochaine. Et en même temps, bah, c'est vite, c'est moins d'un an. Comment avez-vous eu cette idée? Ce désir, comment on peut se dire je vais faire un Stade de France?
Waouh, j'en perds mes mots tellement.
Je sais que c'est vertigineux.
C'est vertigineux. Ouais. C'est vertigineux, mais j'ai décidé de jalonner mon parcours d'artiste de grands actes qui vont nous servir de point de ralliement et de manière de raconter cette aventure. Et il me manquait un grand événement pour pouvoir célébrer tout ça. Et je me suis dit, et si jamais c'était le moment pour faire un Stade de France. De la même manière que j'ai vécu l'expérience d'être le premier pianiste à jouer à l'Accor Arena à Bercy.
Bercy, ouais. Alors Bercy, un vrai Bercy, ras la gueule. Vraiment, ouais. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. C'était plein. Voilà. Quoi. Ouais, c'était fou.
Je me suis dit, ok, maintenant le mouvement est devenu encore plus grand. Et si on allait chercher le Stade de France comme un grand moment de rassemblement populaire, mais aussi de rassemblement où il y a plein de valeurs qui se fédèrent à travers la musique et où on se laisse aller dans nos sentiments. L'honneur d'être choisi aussi longtemps en avance pour pouvoir faire cet événement, je trouve ça complètement dingue. Et bien sûr que quand Yoko Ono a accepté la version et a beaucoup aimé la version.
On m'a dit qu'elle avait particulièrement apprécié.
Et ben, j'étais très honoré aussi. Et en fait, ça a donné un tableau très poétique. C'est un autre événement, on parlait des événements majeurs qui jalonnent un parcours. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, c'était vraiment fou en 2024.
L'album Movie qui vient de sortir. Alors, on a parlé du côté cinématographique. Sofiane Pamar vous l'a dit, comme tout bon film et toute bonne journée à Los Angeles, ça commence par un lever de soleil. Sunrise in your eyes, lever de soleil dans tes yeux. Vous nous avez habitués à du piano solo. Là, on entend dès le début des chœurs, on entend là les cordes. Mm-hmm. Donc, dès les premières secondes du disque, on se dit, ah ouais, là, il a poussé un cran plus loin. Mm-hmm. Vous vouliez aller un cran plus loin et faire un pas vers les chansons, puisqu'il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui sont invités sur votre disque.
Après 3 albums de piano solo, j'avais besoin de renouveler mon discours harmonique, ma manière de composer, donc j'ai voulu rajouter des ingrédients dans ma palette. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, la musique orchestrale, c'est une musique qu'on a beaucoup dans les films, je peux me permettre d'y aller. Donc pour la première fois, j'ai commencé à travailler, à composer pour l'orchestre, et à entendre les pupitres des violons, donc je faisais les 100 pas, et j'entendais un peu de cuivre, j'entendais les bois, j'entendais les coups de timbales.
Vous entendiez tout ça dans votre tête, c'est ça qui est dingue. Non mais imaginez ça déjà, composer du piano, composer une mélodie, on se dit waouh. Et là c'est tous les instruments de l'orchestre, et puis c'est pas un petit orchestre.
Et c'est un orchestre de 70 personnes, et en fait faut les laisser rentrer ces 70 voix à l'intérieur de soi. Et donc progressivement je commençais à trouver des clés. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour composer cet album, parce que c'est un album vraiment qui a été très artisanal dans sa manière d'être conçu et qui m'a obligé à m'élever. Donc il fallait que la proposition soit très claire dès le premier morceau, et c'est pour ça qu'on recommence par du piano quand même tout au début, et l'album termine par du piano, mais entre temps on invite l'orchestre, le chœur et toutes ces voix qui arrivent, parce que j'avais besoin de me renouveler et parce que j'avais besoin de d'autres témoignages qu'uniquement le mien. Ma voix, c'est celle du piano, c'est le fil conducteur de cet album, mais j'avais besoin d'acteurs, j'avais besoin d'autres personnages qui apparaissaient dans ce film.
C'est intéressant de dire des acteurs, parce que pour le coup, toutes les personnalités qui sont en majorité des chanteurs et des chanteuses qui sont invités dans votre disque, c'est des héros de film. Ils ont tous une personnalité, ils ont tous une aura, une dégaine. Je pense par exemple à Mélodie Gardot, c'est la première dont on va écouter la voix sur votre album. Mélodie Gardot avec ses lunettes noires, avec sa blondeur hollywoodienne, elle est incroyable, Mélodie Gardot. Et vous lui faites chanter le moment polar noir, évidemment. Exactement. A kiss, a kill. You close your eyes. Slow regret, begin to
gaze that led to pain, so foreign, so strange.
Vous la voyez, l'héroïne fatale, un peu vénéneuse. Moi, j'imagine avec un foulard dans les cheveux en train de fumer une cigarette.
C'est tout elle. C'est vraiment ça. Elle. On ne va pas faire semblant. Et il n'y avait qu'elle pour jouer ce rôle-là.
Ouais.
Et à ce moment-là, que ferait un réalisateur avec un acteur, avec une actrice, avec autant de personnalité? Il réinventerait complètement son film pour le faire sur mesure pour cette héroïne.
C'est ce qui s'est passé pour la chanson.
C'est ce qui s'est passé pour la chanson.
Ouais, Mélodie Gardot. Pour elle ou pour d'autres chanteurs, chanteuses qu'on trouve sur votre album, Sofiane, je pense à Wyclef des Fugees, à J Balvin, Laurine, Raïm de Christine and the Queens, Sia, enfin voilà, il y a des personnalités vraiment du monde entier. Comment vous leur avez présenté le projet? Vous leur avez dit, on va faire une chanson ou on va faire un film?
Je leur ai dit qu'on allait faire un film et que je leur réservais une scène rien qu'à eux. Et qu'il fallait absolument qu'ils jouent le jeu d'enlever leur carapace, d'être vulnérables, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais posé sur uniquement du piano.
Bah non.
Et donc je voulais que le fil conducteur, ce soit celui-là, que la patte, l'étalonnage du film, ce soit cette approche uniquement piano-voix, pour eux, pour les invités. Et en faisant ça, je pouvais aller chercher des artistes d'univers complètement différents, et à ce moment-là, en fait, finalement, il y a quand même une direction artistique claire qui se crée au fur et à mesure de le film. Sur le papier, quand on voit tous ces artistes au même endroit, on se dit, mais comment ils se retrouvent autour du même banquet? Et en fait, finalement, quand on écoute l'album, vraiment, je peux vous le garantir, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à cet effet-là, mais on a l'impression qu'ils viennent juste les uns après les autres, ouais, dans une pièce où il y a le piano qui les attend pour qu'ils puissent se livrer.
Comme dans tous les bons films, vous avez pensé à tout, Sofiane Pamart, et notamment à avoir un narrateur, une voix qui vous raconte. Et quelle voix, Jimmy Butler. C'est la première fois que dans une émission musicale, sans doute, on va parler de lui. C'est un grand basketteur.
Un champion de NBA que j'ai eu la chance de rencontrer à l'anniversaire d'un autre invité de l'album qui est J Balvin. Et quand il a pris la parole pour remercier J Balvin de sa générosité pour son anniversaire, dans sa manière d'accueillir ses amis proches. Et je me suis dit, mais quel narrateur extraordinaire.
Quelle voix. Incroyable.
Et donc je cherchais une voix pour ce film. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux être cette voix? Et est-ce que tu accepterais de raconter ton histoire? Parce que j'ai besoin d'une voix réelle. Parce que ce film est basé sur une true story. Ouais. Et c'est sur une histoire vraie. Et donc, il me fallait non seulement un narrateur charismatique, mais aussi un narrateur qui puisse être légitime dans son parcours de vie pour raconter quelque chose de fort. Et lui, il a été jusqu'à devenir grand champion de basket, mais aussi il a perdu son papa, il a été père, et en fait, il parle de tout ça. Et finalement, il a un langage, un discours très universel. Donc, je vous invite, soit si vous connaissez l'anglais, à apprécier tout son discours, soit à regarder la traduction des paroles, parce que c'est très 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 beau ce qu'il dit.
Et il le dit d'une telle manière.
I mean, I was a kid who didn't have much of anything. But there's a kind of clarity that you get when you're up alone at midnight, too. Other people may have more than me, or an easier path, or whatever. But right now, I got you beat. And I know I'm gonna give more of myself to this day than anybody else would. Because I know what it feels like to have nothing. And so that's what I did. And I still do.
Un pianiste classique, oui, ça c'est sur le papier et au début du CV, mais Sofiane Pamart, c'est plus de 750 000 albums vendus, 1 milliard de streams, 29 singles d'or, des disques d'or aussi, 5, et puis de platine, et puis de diamants aussi, un Bercy complet, mais l'Opéra Garnier également. Il joue pour des marques de luxe, des familles royales, des amateurs de classiques, mais aussi de rap, de chansons, de rock, de musique latine. Il est là partout, Sofiane Pamart, et le meilleur partout, c'est celui qui réunit 80 000 personnes, le Stade de France, l'année prochaine en 2027. Est-ce que vous êtes un artiste comblé? Pour le moment.
Je suis un homme comblé parce que j'arrive à exprimer mes émotions de plein de manières différentes et que j'ai la chance d'avoir un public que j'arrive à entraîner dans cette aventure.
Ouais, ils vous suivent, voilà. Ils vous font confiance en
très,
fait.
Très 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 fidèles et que je rencontre très souvent après mes concerts, et grâce à ce lien, eh ben j'arrive à comprendre ce qui les fait vibrer et mon rôle dans leur vie, ouais, et leur rôle dans ma vie, je leur exprime aussi. Donc oui, je suis comblé de cet amour-là.
Vous avez pris le risque, parce que c'est un risque quand on vient du classique et qu'on peut y rester. Vous auriez pu faire carrière simplement en tant qu'excellent concertiste. Vous avez pris ce risque de composer votre musique, d'imposer votre style, d'aller, vous l'avez dit tout à l'heure, contre cette idée qu'il faudrait rester chacun dans sa petite chapelle. Vous avez vraiment pété toutes les cages. Ce risque a été payant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez une liberté folle.
Ma liberté est totale grâce à ces risques-là, c'est clair. Après, j'ai une admiration folle aussi pour ceux qui suivent la spécialisation du pianiste classique, qui est un risque aussi, qui est un risque conséquent, mais en même temps qui est admirable. Je pense que le risque qui vaut le plus la peine d'être pris dans toutes les vies, c'est celui qui nous ressemble. C'est essayer de faire en sorte qu'on aille au bout de notre singularité, de notre caractère. Et pour ça, c'est jamais perdu. Tous les investissements, tous les efforts, ce n'est jamais une perte d'énergie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cru très tôt en moi. Et ça m'a pris, en fait, finalement, beaucoup, beaucoup de temps parce que j'ai su vite ce que je voulais devenir.
Vous aviez quel âge, vous pensez, quand
J'avais l'âge du petit garçon qui est sur la pochette.
Ah oui,
de l'album.
Tellement mignon! Le petit Sofiane. Vous aviez quel âge, là,
Donc, j'avais 8 ans et je savais ans. Déjà, j'avais déjà un plan très, 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 un plan. J'avais pas un plan, mais j'avais un désir très fort de m'exprimer au piano parce que j'avais compris que c'était mon instrument et que c'était ce que j'allais devenir. Et le reste, c'est juste de l'entraînement au conservatoire, la discipline, les efforts, mais aussi beaucoup, beaucoup de rêves.
Ouais.
Et après, du voyage encore et encore et encore, et trouver une manière de faire en sorte que ce rêve prenne vie. Et là, maintenant que la machine est vraiment lancée, eh bien, je peux aller toujours un peu plus loin.
Vous avez eu cette intuition, finalement, à 8 ans, que votre vie, ce serait le piano. Mais alors, quand votre maman vous a mis au conservatoire, c'était même avant vos 8 ans, il me semble, est-ce qu'elle aussi, elle a eu l'intuition? Elle a dit, ce petit-là, il est pianiste? Parce que vous n'êtes pas d'une famille de musiciens classiques, pas du tout.
Non, pas du tout, pas du tout. Et en fait, ma mère qui me voyait jouer sur un
petit jouet, un petit Fisher Price.
Ouais, un petit mini-clavier. Elle s'est dit, il a l'air d'aimer ça, je suis admirative de ce monde-là, il faut absolument que je le mette au conservatoire pour lui donner tout ses chances. Et à 6 ans, j'intègre le conservatoire et depuis, j'ai continué tout ce parcours de maître que j'ai au conservatoire et de l'institution publique dont j'ai pu bénéficier depuis que je suis tout petit.
Réaliser ses rêves, c'est aussi parfois inviter des artistes qu'on écoutait quand on était ado sur son album. Alors, j'ai vu le nom de Wyclef Jean dans la liste des invités de Movie et Sofiane Pamart. Wyclef, c'est les Fugees, c'est le plus grand groupe de la fin des années 90. Voilà ce que vous faites ensemble. Jamais entendu chanter comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? C'était la nuit, hein?
C'était la nuit. En fait, ce qui était beau, c'est que j'étais à New York. J'organisais des dîners dans une très belle suite où il y avait aussi un piano. Et parfois, j'improvisais au piano pendant la nuit. On me filme. Et je sais pas comment, mais cette vidéo atterrit dans le téléphone de Wyclef qui demande à me voir. Je le rencontre le lendemain dans la nuit, et d'ailleurs dans le studio d'Alicia Keys et sur le piano d'Alicia Keys.
Pardon, monsieur. Ah oui, non mais c'est vrai. C'est Hollywood, hein, les gars.
Et donc tout est surréaliste, mais tout est très beau. Et quand je le rencontre, vraiment, on a une des premières choses qu'il me dit. Donc d'abord, il vient avec sa guitare, on improvise au piano, et après il me regarde droit dans les yeux, et il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une chanson de paix. Ah. Et There Will Be a Day est une chanson de paix. C'est une chanson où en fait on s'imagine un monde où on est tous en train de boire la même eau, de boire, d'être réunis autour du même oasis, d'avoir des protections spirituelles, des armées d'anges qui font en sorte que on est en train d'œuvrer pour la paix. Elle est très 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 belle, cette chanson, et c'est l'histoire d'une rencontre qui est devenue on est devenus de grands amis à partir de cette première rencontre en studio et en créant ce morceau.
Ah là là. Il parle un peu français en plus, il est haïtien.
Exactement. Donc, c'est ce qui me dit. Et une des choses qu'il m'a dit, c'est aussi une histoire de paix et d'amour entre Haïti et la France qu'on va écrire. Il avait deux grands projets.
C'est beau. Elle est magnifique, cette chanson. Elle s'appelle There Will Be a Day. cet album est un film, ce film est un voyage en 20 scènes avec des invités et puis aussi des moments où vous êtes tout seul, Sofiane. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite?
qu'on soit toujours plus nombreux à se fédérer autour du piano.
C'est un beau vœu, et en plus vous ne le faites pas pour vous-même du coup, mais pour tout le monde, pour la communauté, j'aime beaucoup. Et merci beaucoup d'être venue nous voir, Sofiane.
Merci Émilie, j'ai passé un excellent moment, et je te remercie personnellement merci. Pour la classe et la manière de mettre en valeur tes invités. Je suis touché par ce qui vient de se passer.
Les essentiels de Décibels, une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France.
Il m'appelle ou il m'attend?
Le prochain rêve, c'est la suite ou le commencement?
D'ailleurs, un rêve.
Ça se prolonge ou ça se remplace?
Ça se cultive ou ça se dépasse?
Ça s'imprime ou ça s'efface?
Le prochain rêve, il est prêt ou il est loin?
Le prochain rêve, une envie ou un besoin?
D'ailleurs, un rêve.
Ça se laisse faire ou ça résiste?
C'est abstrait ou réaliste?
Ça s'invente ou ça existe?
Tu vas faire quoi maintenant? L'horizon bouge encore. Prendre un peu plus le temps. Voir le prochain décor. Le prochain décor. Est-ce que les rêves peuvent s'étirer?
Se renouveler, c'est la consigne. T'es un peu dans le flou, c'est bon signe. L'incertitude est un endroit qu'on savoure. C'est jamais une impasse, souvent un carrefour. Questionner, c'est ne pas s'endormir. Douter, c'est l'envie qui respire. Le flou, c'est l'imagination qui se relève. Et c'est sûrement le chantier du prochain rêve.
Parfois.